commence par le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Merci Olivia, tout à l'heure. Après 6 semaines de conflit, les syndicats opposés à la réforme des retraites appellent aujourd'hui à une nouvelle journée de manifestation, un test pour la suite du mouvement qui tente de s'élargir. En attendant, un nouveau rendez-vous dans la rue, déjà fixé au 24 janvier. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Christophe Bouillon, député socialiste de Seine-Maritime.
À quelques jours de l'échéance, lundi prochain, les premières épreuves de contrôle continu du nouveau baccalauréat se retrouvent aujourd'hui menacées par un appel au boycott des syndicats d'enseignants.
Des syndicats qui demandent leur report et dénoncent donc une réforme mal préparée.
La cour d'appel de Paris a annulé ce matin, Thomas, la garde à vue de Muriel Boll en 1984 dans l'enquête sur la mort de Grégory Villemain dans les Vosges.
Oui, l'an dernier, la cour de cassation avait ouvert la voie à cette annulation, estimant que la garde à vue de l'adolescente avait été effectuée en application de dispositions inconstitutionnelles. Nouveau gouvernement et réforme constitutionnelle en Russie. Au lendemain de ces annonces inattendues, tout le monde semble s'accorder aujourd'hui sur l'idée que Vladimir Poutine prépare son avenir politique en jetant les bases d'un pouvoir à vie. Enfin, d'intenses combats ont eu lieu cette nuit entre les forces du régime syrien et des combattants pro-djihadistes dans la province d'Idlib, semblant ainsi enterrer la trêve parrainée par Moscou et Ankara. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Plus d'un demi-siècle d'histoire de l'Europe, on n'en fera pas le tour en une petite demi-heure, mais avec notre invité, l'historien britannique Yann Kershaw, spécialiste du nazisme, biographe ou auteur d'une grande biographie sur Hitler, on va quand même tenter de cerner les contours de ce demi-siècle, les particularités des soubresauts qui ont occupé le continent, et puis exercice un peu de prospective avec un historien, tenter de voir ce qui s'annonce pour l'avenir, que présagent les évolutions de l'Europe au cours des dernières années.
Merci et à tout à l'heure. Combien sont-ils à espérer encore voir le gouvernement battre en retraite? Voilà donc posé la question à laquelle sont à nouveau appelés à répondre dans la rue aujourd'hui. Pour la 6e fois, les opposants au projet de loi du gouvernement. Or, évidemment, au lendemain de la déclaration sans appel du Premier ministre, soucieux de rappeler à tous ceux qui ne l'auraient pas tout à fait mesuré sa détermination totale à aller jusqu'au bout, cette journée aura rarement eu autant valeur de test pour la suite du mouvement. Sans compter que dans les transports publics en particulier, jusque-là fer de lance de la contestation, la mobilisation tend désormais à s'essouffler. Hier, un conducteur sur 5 seulement était en grève à la SNCF. Le groupe ferroviaire qui prévoit un trafic quasi normal aujourd'hui pour les TGV, ainsi que 8 TER sur 10 et 3 Transiliens sur 4 en circulation. Ou dit autrement, à l'heure où le mouvement entre dans sa 7e semaine consécutive, tout l'enjeu pour les syndicats contestataires sera de faire la preuve de leur capacité à rassembler au-delà des mécontentements exprimés par les seuls cheminots. Et c'est ainsi par exemple que pour relancer donc le mouvement, la CGT a réussi depuis lundi dernier à lancer dans la bataille les dockers avec des opérations de blocage dans les 7 plus grands ports maritimes. Et c'est le cas en particulier au Havre où vous vous trouvez. Benjamin Illy, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le cadre de ce mouvement de contestation, le Havre tient évidemment une place particulière, pas seulement parce qu'il est aujourd'hui le premier port français pour le trafic de conteneurs, mais qu'il symbolise aussi le fief de l'ancien député maire de la ville et premier ministre, Édouard Philippe. Quoi qu'il en soit, Benjamin, et après donc une soirée très tendue hier soir avec les forces de l'ordre, les dockers ont à nouveau choisi de défiler ce matin dans les rues de la ville.
Oui, ils étaient bien présents dans cette manifestation, des centaines de dockers un peu à l'écart. C'est eux qui fermaient le cortège en gardant une certaine distance avec les autres manifestants. Des dockers impressionnants avec leurs tambours pour rythmer leur marche en rang serré, déterminés à continuer. Nous sommes donc dans le 3e jour de blocage du port. Johan Fortier est le secrétaire général CGT des dockers du port du Havre.
Ça peut se poursuivre et ça va se poursuivre. C'est loin d'être le baroud d'honneur comme certains veulent l'entendre. C'est plutôt la grande détermination des ouvriers dockers.
Les conséquences économiques sont extrêmement lourdes pour le port du Havre, vous le savez.
Bien sûr, mais nous demandons à ce que le gouvernement prenne conscience justement que c'est évidemment très très lourd économiquement pour tout le monde, mais avant tout ceux qui perdent de l'argent, c'est ceux qui font grève. Et ceux qui font grève parce que le gouvernement a décidé de passer en force sur un projet qui est pour nous injuste.
Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé hier soir à la Chambre de commerce et d'industrie, ce commissaire de police qui a eu un doigt arraché après l'explosion d'un pétard?
Bah, évidemment, vous pensez bien qu'on est désolé que ce commissaire ou peu importe qui d'autre soit blessé dans cette histoire. Aucune volonté de notre part de blesser qui que ce soit, aucune intrusion de notre part, le mot d'ordre était clair. Il y a eu des jets de pétard, et c'est malheureusement un accident, mais nous le déplorons.
Les dockers très mobilisés qui ont quitté la manifestation avant la dispersion pour rejoindre le port du Havre, mais un port mort.
Merci Benjamin Illy en direct du Havre. Alors pour cette sixième journée d'action, des cortèges sont donc attendus un peu partout en France, avec notamment en point d'orgue celui qui s'élancera cet après-midi entre Montparnasse et Place d'Italie à Paris, et qui a priori devrait une nouvelle fois compter beaucoup d'enseignants en dépit de l'ouverture cette semaine de négociations censées déboucher sur une loi de programmation de revalorisation salariale. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors on le sait, cette réforme des retraites pourrait potentiellement faire perdre beaucoup aux professeurs, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé son intention de consacrer 500 millions d'euros à des hausses de salaire qui prendront effet en janvier 2021. Avec toutefois cette incertitude, Hakim, ces 500 millions supplémentaires seront-ils confirmés chaque année après 2021?
Et oui, c'est toute la question, car si le ministre de l'Éducation a bien confirmé au syndicat cette semaine une enveloppe de 500 millions d'euros à partir de l'année prochaine pour compenser les pertes liées à la réforme des retraites, il reste beaucoup plus prudent sur l'enveloppe globale que nécessitera le nouveau système par points. Il reconnaît que d'ici 2037, il faudra bien plus que les 10 milliards d'euros initialement budgétisés pour cette réforme et pour augmenter les salaires des enseignants, notamment ceux en début et milieu de carrière qui seront les plus concernés. Pour eux, Jean-Michel Blanquer prévoit une augmentation de 70 à 90 euros par mois sous la forme de primes, une somme que conteste le syndicat qui estime qu'en vérité, cela sera beaucoup moins.
Et puis, Hakim, au-delà de la question donc des retraites, Jean-Michel Blanquer se retrouve également confronté à des menaces de grève dès lundi prochain, s'agissant du début des nouvelles épreuves du baccalauréat.
Oui, face à ce contexte explosif, Jean-Michel Blanquer appelle ce matin les enseignants à plus de neutralité politique en leur demandant de ne pas mélanger la réforme des retraites et les épreuves du bac qui commencent lundi et qui sont, selon lui, deux choses complètement différentes. Un discours que ne partagent pas du tout les partenaires sociaux et les syndicats, pour qui le malaise est de plus en plus grand face à leur hiérarchie, qui multiplie ces dernières années, les réformes au pas de charge, en laissant de moins en moins le temps aux enseignants de travailler, de discuter et de concerter, et de donner leur point de vue sur le côté pédagogique. Preuve que ce malaise est de plus en plus grand. Même les syndicats réformistes comme l'UNSA, que nous avons eu ce matin, nous indiquent recevoir de plus en plus d'appels de la part de ses adhérents pour savoir comment faire grève la semaine prochaine pendant les épreuves du bac.
Merci Hakim Kasmi. Toujours s'agissant de cette réforme des retraites, mais concernant cette fois-ci les avocats, ceux-ci ont obtenu hier du gouvernement le maintien d'une caisse propre à leur profession. Un aménagement toutefois qui ne semble pas satisfaire le Conseil national des barreaux. Enfin, si dans ce mouvement de contestation qui entre aujourd'hui dans sa septième semaine, la mobilisation générale, on l'a dit, tente à baisser, elle n'en reste pas moins soutenue majoritairement par l'opinion publique, selon les derniers sondages, où quand le compromis intervenu entre le gouvernement et les syndicats dits réformistes n'a visiblement pas eu d'impact particulier chez les Françaises interrogées. Et pour continuer d'évoquer donc toujours ce dossier, mais pas seulement, invité de la rédaction aujourd'hui en direct, en duplex de chez nos confrères de France Bleu Normandie, Christophe Bouillon, député socialiste de Seine-Maritime. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Avant d'évoquer avec vous une proposition de loi étudiée aujourd'hui au Sénat et dont vous êtes à l'origine sur le lieu de naissance inscrit à l'état civil, une première question monsieur Bouillon sur cette réforme des retraites. Vous appartenez, je le disais, au groupe socialiste. Pourquoi votre parti et plus largement peut-être d'ailleurs l'opposition de gauche est-elle aussi peu audible depuis 6 semaines qu'a commencé la mobilisation contre la réforme des retraites?
Alors d'abord, le Parti socialiste est présent dans les cortèges. Il est présent aussi dans les réunions qui sont organisées un peu partout en France, et les réunions unitaires notamment. Et au-delà de cela, il est aussi présent à travers le groupe socialiste et à travers un certain nombre de propositions. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui, il faut le dire assez clairement, il y a un problème de méthode. D'ailleurs, 2 Français sur 3 jugent que le gouvernement gère très très mal cette crise qui, par sa durée, est déjà quand même une crise historique. On a le sentiment que le gouvernement divise les Français. Il a rouvert la guerre des âges. Et au-delà de ça, on ne comprend plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas travaillé ce sujet depuis 2 ans maintenant? On voit bien qu'il n'y avait pas d'âge pivot départ. Il y a maintenant, il y a eu un âge pivot qui a été annoncé. Il a été retiré, remplacé par un âge d'équilibre. On nous dit qu'il faut mettre fin aux régimes spéciaux, mais on voit réapparaître des spécificités. On joue sur les mots pour les gendarmes, pour les policiers, pour les hôtesses de l'air, pour les pilotes d'avion, maintenant pour les avocats. Et puis, vous l'avez dit dans votre reportage, il y a une défiance très très forte, notamment de la part des enseignants. Comment vous voulez croire un seul instant qu'on va revaloriser les rémunérations pour garantir des pensions de retraite quand on est incapable au jour d'aujourd'hui de revaloriser quelques dizaines d'euros qu'on s'est demandé, alors que là, les sommes qui sont imaginées, annoncées, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et j'ai rencontré beaucoup d'enseignants pendant les manifestations qui, eux, ont fait leurs calculs et s'aperçoivent que concrètement pour eux, ça veut dire une revalorisation mensuelle autour de 800 à 900 euros. Vous imaginez le saut qu'il va falloir faire, et personne ne croit le gouvernement là-dessus. Surtout, et vous l'avez bien expliqué, que autant on peut être assuré d'un salaire, autant une augmentation qui sera discutée tous les ans au moment du vote du budget, personne n'y croit, et il y a un doute terrible pour qu'à un moment ou à un autre, tout cela soit remis en cause.
Question de Rosalie Lafarge.
Christophe Bouillon, on en parlait, on a cette proposition de loi étudiée aujourd'hui au Sénat qui vise à permettre aux parents de faire inscrire à l'état civil de leur enfant le lieu de résidence plutôt que le lieu de naissance, c'est-à-dire en fait la ville de la maternité. Ça servirait à quoi? Ça changerait quoi?
Ça change beaucoup de choses, d'abord concrètement pour les villages eux-mêmes. Vous savez, il y a beaucoup d'élus, hein, je suis président de l'Association des petites villes de France, qui disent la chose suivante: quand on commence à effacer les cartes d'identité, des papiers d'identité, le nom des villages, on finira sans doute demain par les effacer tout simplement de la carte de France. Il y a un paradoxe terrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans les états civils des villages et des villes qu'on inscrit les décès, mais pas les naissances. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de villages qui travaille la question de l'attractivité du tourisme et qui sont très fiers parfois d'afficher que ici est né un compositeur, là un auteur, là une personnalité célèbre. Et au-delà de ça, même si on est aujourd'hui dans une société de la mobilité, il est rare que on reste l'endroit où on est, on va travailler ailleurs, on va faire ses études ailleurs, mais on est souvent à la recherche de ses origines et très fiers d'afficher qu'on est né dans tel ou tel village, en tout cas qu'on est originaire de tel ou tel village. C'est une mesure qui coûte pas grand-chose, qui est plus que symbolique, qui est une adresse vis-à-vis des villages de France. Vous savez, il y a moins de 500 maternités aujourd'hui en France.
C'est ce que j'allais vous dire, moins de 500 maternités et 34 000 villes et villages de France. Est-ce que ce ratio, finalement, participe de cette disparition des villes et des villages, de l'état civil d'abord et peut-être du reste ensuite?
Concrètement, vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, quand il reste des maternités, c'est souvent dans les grandes villes. C'est-à-dire que concrètement, eh bien, on est dans les grandes villes, alors que beaucoup de Français vivent ailleurs. Vous savez, la strate qui est celle des petites villes de France entre 2500 et 25 000 habitants, c'est 26 millions de Français. Et je crois qu'il y a une demande très forte aujourd'hui de dire, voilà, on est très fiers d'être né dans tel ou tel village. Ça fait partie de notre histoire. Et on sera très heureux demain de retrouver cette trace. Je suis assez surpris, moi, par le nombre de personnes qui se livrent aujourd'hui à des recherches généalogiques, par exemple. Donc, faut pas sous-estimer cet aspect-là des choses. Puis, encore une fois, c'est vraiment une demande qui vient des territoires pour dire, voilà, on a envie, nous, de ne pas complètement disparaître. On a le sentiment parfois qu'on a remplacé Paris et le désert français, vous savez, cette fameuse expression d'après-guerre, par les grandes métropoles et rien autour. Eh bien aujourd'hui, le rien autour, il se manifeste et il a envie d'exister.
Alors vous le disiez, ça va au-delà du symbole pour vous. Est-ce que après la crise des Gilets jaunes, c'est aussi une façon de répondre à cette crise et à ce sentiment parfois d'abandon du monde rural ?
Alors la crise des Gilets jaunes, elle a révélé des fractures territoriales, des fractures sociales. Elle est le signal aussi parfois d'un manque de mobilité dans les territoires, d'une disparition de services publics, d'un enjeu très important qui est celui de l'offre de soins. Ça renvoie aussi à cette question justement des maternités. Mais il y a aussi un grand cri qui est celui de dire « j'existe ». Il y a des habitants qui se sont sentis dans le discours politique dominant complètement oubliés, complètement abandonnés. Donc c'est une façon qui ne résout pas bien évidemment les fractures. Elles sont lourdes. Elles demandent sans doute parfois des leviers financiers. Les villages attendent plus qu'on les aide sur la revitalisation de leur cœur de bourg, sur l'aide pour les écoles, sans doute que ce type de mesure. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est un message plutôt positif à adresser à ces territoires.
Alors, autre sujet, mais dans l'actualité lui aussi, Christophe Bouillon, vous êtes député socialiste. Quel regard portez-vous sur l'affaire Ségolène Royal, qui devrait être bientôt démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles après ses critiques de l'exécutif?
Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement, en la matière, a inventé une sorte de devoir de vigilance XXL. Ségolène Royal a exercé une mission non rémunérée. elle n'était pas haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Chacun connaît son engagement qui n'est pas nouveau pour l'environnement.
Enfin, moi, il y a quand même des questions sur l'usage des moyens qui ont été mis à sa disposition dans ce cadre-là. Il y a d'ailleurs une enquête préliminaire qui est ouverte.
Elle a été très claire sur ce point. Le travail du parquet national financier est légitime. Il se trouve que la mission a un budget qui lui était accordé et sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que les frais de déplacement, tous les aspects qui sont liés à l'exercice de cette mission sont bien évidemment vérifiés par les services financiers. Donc il y a tous les justificatifs sur la table. Permettez-moi quand même de m'interroger sur le tempo et sur... on voit bien que ce qui se passe quelque part, Ségolène Royal donne une opinion non pas en tant qu'ambassadrice, mais en tant que personnalité politique sur ce moment, et notamment sur la question des retraites. Et tout d'un coup, on a le sentiment d'une forme d'acharnement autour d'elle. Je crois que c'est pas sérieux. On a le sentiment dans ce pays que on veut à tout prix on veut refaire en quelque sorte le match du second tour des dernières présidentielles et que personne ne doit interférer dans ce match. Ce n'est pas sérieux. Encore une fois, vous savez, Michel Rocard, qui a occupé cette fonction importante, qui est ambassadeur des pôles sous Nicolas Sarkozy et même sur François Hollande, disposait, j'ai envie de dire, d'une liberté de parole qui ne l'a jamais empêché de critiquer parfois vertement Nicolas Sarkozy, et ça ne posait aucune difficulté. Et je crois qu'il faut faire la distinction entre la responsabilité qui était celle de Ségolène Royal, qu'elle a exercée en défendant la cause des pôles et la cause de l'environnement. Et encore une fois, elle a
été sollicitée. En tout cas, le timing et la façon de faire vous interrogent, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Christophe Bouillon.
Député socialiste de Seine-Maritime, je le rappelle, en direct et en duplex, donc de chez nos confrères de France Bleu Normandie. Et merci à vous également, Rosalie Lafarge. La cour d'appel de Paris a annulé ce matin la garde à vue de Muriel Boll, datant de 1984, lorsqu'à l'époque, âgée de 15 ans, elle avait accusé devant les gendarmes son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé le petit Grégory Villemain sous ses yeux. Après différentes auditions, l'adolescente d'alors était revenue sur ses accusations, expliquant avoir été influencée par les gendarmes. Dès lors, cette nouvelle décision de la cour d'appel de Paris est-elle de nature à changer quoi que ce soit dans ce dossier? Élément de réponse avec Florence Turme.
En février dernier, la Cour de cassation avait ouvert la voie à l'annulation de cette garde à vue. En novembre 84, Muriel Boll avait alors 15 ans. Elle s'était retrouvée complètement seule, sans avocat, face aux gendarmes qui l'interrogeaient. Et cette décision reste donc avant tout symbolique aux yeux de son avocat, Jean-Paul Tessonnière.
Je pense qu'il y a quelques leçons à tirer de tout cela, et notamment à considérer que les conditions dans lesquelles l'instruction avait redémarré en mettant en cause Muriel Boll en 2017 dans le cadre d'une sorte de coup de force judiciaire, tout ça doit être médité pour l'avenir et qu'il convient maintenant de tirer les conséquences de tout ça et de ne plus inquiéter ou même, j'utiliserai un terme plus fort, persécuter Muriel comme elle l'a été depuis 35 ans dans cette affaire.
Mais si la garde à vue elle-même a été annulée, les déclarations de Muriel Boll ne s'effacent pas pour autant du dossier, car à l'époque, elle les avait également tenues devant le juge Lambert, accusant son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé le petit Grégory avant de se rétracter en dénonçant la pression des gendarmes. Ces déclarations restent donc au dossier et c'est le plus important, insiste François Saint-Pierre, l'avocat des parents de l'enfant, les époux Villemain.
Personnellement, je suis absolument convaincu de l'authenticité de ce récit qui a été par ailleurs corroboré par différents témoignages, plusieurs éléments de l'enquête. Il serait temps que la parole de Muriel Boll se libère. Nous ne demanderons jamais qu'elle soit mise en examen, jamais qu'elle soit traduite devant un tribunal pour y être jugée. C'est clair. Donc elle n'a plus de pression sur elle. Et je crois qu'elle ne fait que couvrir Bernard Laroche dans une omerta familiale qui est vraiment regrettable tant d'années après.
L'instruction du dossier 35 ans après la mort du petit Grégory se poursuit désormais à la cour d'appel de Dijon.
La garde à vue du réalisateur Christophe Ruggia, accusé d'attouchement sur l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle était adolescente, a été levée ce matin. Le cinéaste de 55 ans qui conteste cette mise en cause doit être déféré au parquet en vue de sa présentation à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Depuis le début de son procès, mardi dernier, l'ex-prêtre Bernard Prénat, jugé à Lyon pour des abus sur des enfants, apparaît au fil des témoignages à la fois comme comme un vicaire adulé par tous, autant qu'un redoutable pervers sexuel. Alors, acculé par les témoignages de ses victimes, il s'était contenté jusque-là de reconnaître partiellement les faits en demandant pardon, mais sa défense a pris un nouveau tour hier, tout en pointant la responsabilité de l'Église qui n'a pas su réagir face à ses pulsions. L'ancien prêtre a révélé avoir lui-même été abusé dans sa jeunesse, des faits qu'il n'avait jamais évoqués avant d'être interrogé par la police début 2016. Un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages, c'est ainsi qu'un ministre russe, aussi surpris manifestement que ses compatriotes, a lui-même décrit hier les multiples rebondissements d'une journée qui décidément n'en finit pas de nourrir les interrogations encore ce matin. Rappelons qu'en l'espace de quelques heures seulement, Vladimir Poutine a tout à la fois annoncé une vaste révision constitutionnelle et accepté la démission de son premier ministre Dmitri Medvedev, qui l'a dans la foulée remplacé par un technocrate inconnu du grand public, le directeur du fisc Mikhail Mishustin. Autant de changements qui doivent servir à calmer le mécontentement ambiant. Mais pas seulement, même si le chef du Kremlin a confirmé qu'il quitterait bien le poste de président en 2024. En annonçant vouloir réformer la constitution, Vladimir Poutine a visiblement aussi jeté les bases d'un pouvoir à vie. Les précisions à Moscou de Claude Brouillot.
Le changement de gouvernement et l'éviction de Medvedev apparaît aujourd'hui comme l'expression de la volonté de Vladimir Poutine de faire d'abord baisser la pression sur le pouvoir après deux années parsemées de démonstrations de mécontentement plus ou moins profondes, si l'on évoque par exemple la très critiquée réforme des retraites ou de manifestations d'opposants exclus des élections locales l'été dernier. Le président russe fait dans le court terme sur ce plan-là, mais en revanche, lorsqu'il annonce le renforcement du pouvoir des gouverneurs en région, ou plus important, lorsqu'il évoque pour la seconde fois en un mois la question de la limite d'exercice du pouvoir à deux mandats présidentiels en se disant ouvert, il est clairement là, à moyen terme, dans la préparation de l'après 2024. Mikhail Mishustin, son nouveau Premier ministre, fait-il partie de ce futur qui n'arrivera que dans 4 ans? Difficile à dire, d'autres Premiers ministres ont fait long feu durant le règne de Vladimir Poutine, qui se souvient de Mikhail Fradkov en 2004 par exemple. Le nouveau chef du gouvernement incarne une forme de rigueur à travers son parcours pendant 10 ans au cœur du système fiscal russe qu'il a profondément modernisé. Aura-t-il toutefois suffisamment de temps pour redresser la croissance économique russe en berne avant la prochaine vague d'élections locales et régionales dès septembre et surtout avant les législatives de l'an prochain? En clair, l'homme choisi par Vladimir Poutine devra savoir calmer très vite le mécontentement qui s'est installé, mais d'abord au bénéfice de son parrain dont l'appétit de pouvoir hier n'a pas semblé rassasié.
Le dossier d'accusation contre Donald Trump a été officiellement transmis hier au Sénat. Chargé de juger le président américain, les sénateurs prêteront serment aujourd'hui devant le chef de la Cour suprême, lequel présidera donc ce procès en destitution historique à partir de mardi prochain. D'intenses combats entre les forces du régime syrien d'un côté et des combattants djihadistes et des rebelles de l'autre ont eu lieu cette nuit dans la province d'Idlib. Un premier bilan fait état d'au moins 39 tués. Alors ces affrontements interviennent en réalité au lendemain de la mort déjà de 18 civils dans des frappes de l'aviation du régime. Et surtout, ils contreviennent à la trêve annoncée le 9 janvier dernier par Moscou, le grand allié de Damas. Initiative confirmée également par la Turquie, parrain pour sa part de plusieurs groupes rebelles, et censée avoir débuté dimanche, en vain donc. Les précisions de Valérie Crova.
L'offensive dans la province d'Idlib redouble d'intensité depuis hier. Des avions russes et des hélicoptères, larguant des bonbonnes d'explosifs, mènent des frappes intensives dans le sud-est de la province éponyme, appuyées par des tirs d'artillerie et des combats au sol. C'est dans cette région que se concentre une partie des djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda qui contrôle la ville d'Idlib, située à quelques dizaines de kilomètres. Idlib, où des raids aériens sont régulièrement menées. Hier, un marché a notamment été pris pour cible. 19 personnes ont été tuées et 65 blessées, dont une majorité de femmes et d'enfants. Parallèlement, le régime syrien a repris le contrôle de 2 villages en direction de Maharet al-Nouman, important bastion rebelle sur la route qui relie la province centrale de Hama à Alep, dans le nord de la Syrie. C'est un axe stratégique dont le régime veut à tout prix reprendre le contrôle. La plupart des habitants de Maharet al-Nouman a déjà fui l'avancée des troupes syriennes qui, aidées dans leur offensive par leurs alliés russes, ne sont plus qu'à 7 kilomètres.
La pluie est enfin tombée aujourd'hui sur certaines des régions australiennes en proie depuis des mois de dramatiques feux de forêt sans précédent dans leur ampleur comme dans leur durée. Et davantage de précipitations même sont encore attendues dans les prochains jours, ce qui devrait aider les pompiers à engager dans ce combat titanesque. On termine avec un mot de météo pour cet après-midi. La perturbation arrivée ce matin par la pointe bretonne s'enfoncera lentement vers les pays de la Loire. Les entrées maritimes de nuages bas persisteront sur le pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.